Europe 1, il est midi. Bonjour à tous.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Et vous avez la parole, vous le savez, comme tous les jours. Mais tout d'abord, le journal d'Europe Midi, avec à la une aujourd'hui la canicule qui arrive en France. On a chaud, c'est normal, et on n'a encore rien vu. On va voir à quoi s'attendre avec Louise Salé. Dans les EHPAD, il faut évidemment protéger les personnes âgées, les faire boire. Reportage de Thibaut Hue en Seine-et-Marne. La campagne des législatives, la campagne de l'entre-deux-tours. Comment l'entourage d'Emmanuel Macron gère-t-il cet entre-deux-tours? Les informations de Jacques Seret à l'Élysée, alors que s'est tenu ce matin à un conseil des ministres. Donnons notre sang, les stocks sont au plus bas. On va voir comment cette situation se gère dans les hôpitaux. Reportage. On reviendra également sur les difficultés de l'équipe de France de football. Elle a été battue par la Croatie pour la première fois de son histoire. On va y revenir avec Cyril de la Morinerie. La campagne des législatives et ce face-à-face tendu entre la NUPES d'un côté et Ensemble de l'autre. On en parle avec vous. Vous appelez le 39-21, vous passez à l'antenne. Et puis on sera avec Bastien Lachaud, député La France Insoumise, et avec Xavier Iacovelli, sénateur La République En Marche.
Europe 1.
34 degrés à l'ombre à Perpignan, 35 à Montpellier, 36 à Marseille et un record pour cette année, 37,6 degrés enregistré à Cuers dans le Var. Le thermomètre s'est affolé dès hier dans le sud de la France et cela va continuer. Louise Salé, bonjour Louise.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Des températures exceptionnellement élevées sont attendues partout en France aujourd'hui et jusqu'à samedi.
Effectivement Romain, le thermomètre va grimper. Là, ce mardi, dans le sud-ouest, jusqu'à 35 degrés. Au nord, les températures vont atteindre les 30 degrés à Nantes, à Tours, à Paris. Et hier, vous l'avez dit, il faisait déjà 36 degrés à l'ombre à Marseille. C'est une situation tout à fait inhabituelle. Olivier Proust est prévisionniste à Météo France.
Dans les régions méditerranéennes, hier, il a déjà fait extrêmement chaud avec des records décadaires. Cela veut dire qu'on n'avait jamais mesuré ces valeurs durant la mi-juin, entre le 11 et le 20 juin. Ce qui revient à dire que cette vague de chaleur est remarquablement précoce.
Et le pire est à venir, donc entre jeudi et samedi, les températures atteindront les 35 degrés dans le centre du pays et jusqu'à 30 degrés en Bretagne, en Normandie, dans les Hauts-de-France. Pour le sud, en particulier sur la côte ouest, le mercure peut dépasser les 40 degrés. Et attention, pour la caractériser, cette vague de chaleur n'est pas un dôme qui couvre la France, c'est différent.
Une situation très dynamique. On n'a pas ce couvercle anticyclonique qui nous fait cuire dessous pendant des jours. Là, c'est plutôt, on passe la main sur le gaz, le feu, sur la flamme. Là, on va avoir 2-3 jours de température excessive, remarquablement précoce dans leur intensité. Et ensuite, ça va passer. C'est une situation très dynamique qui n'est pas pour l'instant installée comme un dôme de chaleur.
Voilà, une vague de chaleur intense et rapide. Des records historiques pour la saison vont sans doute être battus dans une bonne partie du pays.
3-4 jours donc où il va faire très très chaud. Merci beaucoup Louise. Notez que la Première Ministre Elisabeth Borne se dit pleinement mobilisée face à ce pic de chaleur. Elle réunira cet après-midi à Matignon les préfets et les directeurs des ARS, les agences régionales de santé. Par ailleurs, le ministre de l'Éducation Pap Ndiaye va s'entretenir avec les recteurs afin d'organiser au mieux les épreuves du baccalauréat malgré ces températures élevées. Voilà les toutes dernières informations. Quand il fait très chaud, il faut faire attention à nos aînés, évidemment, prendre de leurs nouvelles, veiller à ce qu'ils s'hydratent régulièrement, par exemple. Et bien sûr, dans les maisons de retraite, la vigilance des personnels est particulièrement forte. Comme en témoigne ce reportage de Thibaut Hue dans l'EHPAD du Château du Poitou, c'est en Seine-et-Marne.
J'ai du jus frais à vous proposer et de l'eau fraîche. Et avec la chaleur qu'il fait, c'est mieux de boire.
6 carafes d'eau remplies à ras-bord, posées sur un chariot. Les résidents doivent s'hydrater et sa Geneviève, 90 ans, l'a bien compris.
J'ai augmenté la quantité d'eau. Là, j'ai fait mettre un peu de menthe. C'est pas très bien pour le diabète, mais tant pis.
Toutes les heures, une aide-soignante fait le tour des chambres pour apporter de l'eau. Le plan canicule prévoit une batterie de nouvelles règles, explique Mélodie Jacques, infirmière coordinatrice.
Bien veiller à ouvrir quand il fait frais, bien veiller
à refermer bien l'après-midi parce que c'est ensoleillé. Plutôt mettre les résidents dans les espaces qui sont climatisés ou au moins où il y a des ventilateurs.
Et avec 6 soignants pour 46 résidents, l'effectif pourrait bientôt être insuffisant, redoute la directrice Aline Varache.
Si on sentait que les chaleurs montent vraiment et qu'on est en difficulté, on irait à recruter d'autres professionnels pour peut-être aider à hydrater les résidents, voir à ce qu'ils soient bien dans leur chambre.
Un dispositif qui se répète chaque année et qui pousse l'établissement à doubler ses dépenses pour affronter les températures.
La campagne de l'entre-deux-tours de ces élections législatives se poursuit, notamment pour la NUPES. Jean-Luc Mélenchon tient un meeting à Toulouse ce soir. Le leader de la gauche radicale qui a maintenu hier soir ses accusations de, je cite, « bidouillage des résultats du premier tour ». Bidouillé, selon Jean-Luc Mélenchon, par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Jean-Luc Mélenchon qui maintient que la NUPES a recueilli plus de voix que la majorité présidentielle, mais que tout est fait, je cite, pour masquer la lourde défaite du parti macroniste. Bon, de son côté, Emmanuel Macron a décidé de s'éloigner du terrain pour le moment. Le chef de l'État s'occupe des questions géopolitiques avec une tournée en Europe de l'Est qui débute aujourd'hui. On va en reparler dans un instant. Jacques Serey, vous êtes à l'Élysée, où se tient le Conseil des ministres. C'est à son gouvernement que le président laisse le soin de faire campagne avant le second tour des législatives.
Absolument, Emmanuel Macron est monté au front jeudi dernier dans la dernière ligne droite avant le premier tour, mais désormais il se met en retrait. Hier, en visite au salon Eurosatory consacré à la défense, il n'a fait aucun commentaire sur les résultats de ces législatives et il ne devrait pas y en avoir tout de suite car le chef de l'État veut prendre de la hauteur dans cet entre-deux tours. Il va décoller tout à l'heure pour la Roumanie avant de se rendre en Moldavie. L'enjeu est évidemment diplomatique dans le contexte de la guerre en Ukraine, mais cela donne aussi de la gravité au moment et le président sait que ce paramètre joue en sa faveur. Ça avait été le cas lors de la campagne présidentielle. Hauteur de vue pour le président et Elisabeth Borne sur le terrain. Voilà la stratégie. Les ministres sont priés de faire campagne, de se soutenir entre eux, d'aller aider tel ou tel candidat. Ce soir, par exemple, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, se rendra à une réunion publique de sa collègue du gouvernement, Amélie Montchalin, en mauvaise posture dans sa circonscription de l'Essonne. Elisabeth Borne, actuelle chef de la majorité, fera elle demain soir le 20h de France 2.
Jacques Serey à l'Élysée. Emmanuel Macron, qui préfère garder son costume de président de la République, pour le moment, à quelques jours du second tour des législatives, le chef de l'État se déplace en Roumanie cet après-midi. Il se rendra auprès de soldats français déployés dans une base militaire de l'OTAN. C'est à quelques centaines de kilomètres de la frontière ukrainienne qu'il se rend. William Molinier, le président de la République, veut montrer que l'armée française est pleinement engagée en Europe de l'Est, dans une région qui craint particulièrement la menace russe. Hein.
Oui, en Roumanie, le chef de l'État passera les troupes en revue. 800 militaires français et belges du bataillon Fer de Lance de la force de réaction rapide de l'OTAN. Ce contingent sera porté d'ici à la fin de l'année à 1 000 000 d'hommes, selon nos informations, du matériel plus lourd. De nouveaux blindés et des chars Leclerc seront acheminés. Emmanuel Macron entend montrer l'engagement militaire français dans la défense des frontières européennes. Demain, le chef de l'État se rendra en Moldavie. C'est la première fois depuis Jacques Chirac en 1998 qu'un président français s'y rend. Enjeu important, sécuritaire d'abord en Transnistrie, cette enclave pro-russe inflammable, mais aussi européen puisque la Moldavie a fait acte de candidature pour rejoindre les 27. Pendant 2 jours, Emmanuel Macron se trouvera à seulement 500 km de Kiev. Et si le chef de l'État envisage bien de s'y rendre, mais en temps utile, selon les mots d'un conseiller, l'Élysée insiste, rien, absolument rien à cette heure n'est acté.
Et puis cette victoire pour l'armée russe dans le conflit en Ukraine, elle a réussi à prendre 70 à 80% de la grande ville, la ville clé du Donbass, Severodonetsk. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky juge que le bilan humain de la bataille dans cette région est, je cite, terrifiant. Midi 8, restez bien avec nous dans Europe Midi sur Europe 1. Dans un instant, on va parler de cette alerte dans certains hôpitaux. Il manque des poches de sang. L'établissement français du sang lance un appel aux dons. A tout de suite.
Europe Midi,
Romain Desarbres.
Il est midi 10, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. Et il en manque du sang dans les hôpitaux. 30 000 poches si l'on veut aborder l'été sereinement, selon l'EFS, l'établissement français du sang. Pourtant, les passages aux urgences ne diminuent pas et les soignants, vous allez voir, sont inquiets. Alors les rares stocks sont gérés avec la plus grande prudence. Mathieu Limongi s'est rendu au CHU de Reims pour Europe 1. Écoutez.
Si vous ouvrez celui-ci... Celui-là, il est vide, quoi. J'ai deux racks qui sont réservés, il y en a qu'un qui est rempli.
1, 2, 3...
Yannick Lemierre fait le même constat chaque jour. Quand il ouvre les réserves du laboratoire, les poches de sang manquent. Alors pour le responsable des stocks de l'établissement, il faut optimiser et négocier.
Un prescripteur qui veut demander 3 poches en lui expliquant nos problèmes de stock, il peut être amené à lui dire 2 poches vont suffire. En fonction du type de patient, de sa pathologie et du stock, c'est un équilibre à trouver en fait.
Un équilibre plus que fragile et puisque chaque goutte compte, les patients sont de plus en plus nombreux à recevoir un sang différent de leur groupe sanguin.
Ça va nous faire une économie. Il y a des patients, les semaines passées, qui ont utilisé 40 poches dans la même journée. Si vous lui donnez les 40 poches, vous donnez le stock entier. Ça n'est pas possible.
Opération le plus souvent sans risque, mais pas toujours possible selon les groupes sanguins. Parfois, l'intervention peut être reportée. C'est ce qu'observe de plus en plus Deria, technicienne au laboratoire de l'hôpital.
Ce genre de groupe, forcément, c'est des groupes hauts. C'est un groupe qui n'est pas très courant chez nous. Quand c'est une opération, on peut se permettre de faire des cahiers d'intervention, mais quand c'est une maternité ou autre, on fait des recherches dans la région, voire dans la France, pour trouver des poches compatibles.
Deria s'inquiète. Elle pourrait bien être amenée à relancer cette alerte générale plusieurs fois dans les semaines à venir.
Voilà, et si vous voulez donner, vous allez évidemment sur le site de l'EFS, efs.fr, et l'EFS est l'établissement français du sang, bien sûr. Une nouveauté qui concerne presque 2 millions de Français, les particuliers qui emploient un salarié à domicile, comme une femme de ménage par exemple, peuvent bénéficier dès aujourd'hui du crédit d'impôt immédiat. Ce système permet aux particuliers de ne plus avoir à avancer la part remboursée par l'État dans le salaire de la personne employé. Aurélien Fleureau avec nous. Bonjour Aurélien.
Bonjour Romain.
Service économie d'Europe 1, bien sûr. C'est un vrai coup de pouce pour les ménages, pour les familles.
Exactement, ceux qui passent par un organisme, puisque jusqu'ici, l'administration fiscale versait en début d'année une avance de 60% sur les salaires prévus et les 40% restants au mois d'août. Le crédit d'impôt simplifié permet donc aux personnes employant des aides de ne verser que chaque mois les 50% qui sont à leur charge. Plus d'avance de trésorerie, un dispositif qui devrait inciter encore plus les ménages. La Fédération des services aux particuliers estime que cela pourrait accroître l'activité de 30% et donc faire passer de 70 000 à plus de 100 000 emplois. C'est l'équivalent du tiers payant pour les dépenses de santé, explique le gouvernement, qui avait déjà permis dès janvier dernier aux particuliers employeurs, donc ceux qui rémunèrent directement leurs salariés, d'en bénéficier. 160 000 personnes ont d'ailleurs activé le dispositif via le service CESU+. Ce sera 2 fois plus d'ici la fin de l'année, espère l'URSSAF. Alors si vous faites partie des personnes concernées, 1 800 000, eh bien c'est donc possible à partir d'aujourd'hui, confirme Bercy. Cela concerne l'emploi de femmes de ménage, de jardiniers, d'étudiants pour du soutien scolaire. Pour les gardes d'enfants de plus de 6 ans, là, ce sera en septembre.
Aurélien Fleureau, merci beaucoup Aurélien. On va parler... Alors attendez, votre micro n'est pas ouvert, monsieur le sénateur qui veut commenter.
Je voulais juste commenter, pardon. Je trouve que c'est aussi un moyen de lutter contre le travail illégal et donc de lutter contre la précarisation aussi du travail de service. Et donc c'est une super mesure, je trouve, qui va dans le bon sens.
C'est Xavier Iacovelli qui est sénateur La République En Marche. Et Bastien Lachaud qui se dit, mais le débat a commencé. Non, il n'a pas commencé. On commencera par vous, Bastien Lachaud, du coup, député La France Insoumise.
Oui, mais on peut juste dire que si en effet cela va servir 2 millions de ménages, ce sera malgré tout les ménages les plus aisés qui sortent encore vainqueurs des propositions du gouvernement et d'Emmanuel Macron, parce que qui a les moyens dans ce pays d'embaucher une femme de ménage?
Personnes qui sont au SMIC.
Bon, le débat, on va en parler juste après. On va en parler. Il y a Cyril de la Morinerie qui nous attend. On va parler football. Voilà, le débat.
C'est
jamais arrivé.
Même là-dessus, vous êtes contre. Non, j'ai pas dit que j'étais contre. J'ai dit que ça ne servait que les plus riches. Et le chèque alimentaire, pourquoi vous ne le faites qu'en 2023? C'est aujourd'hui que les gens ont faim.
Mais attendez, vous inquiétez pas, on va en parler.
Ah oui,
mais justement, c'est pour ça qu'il faut que dès cet été, on puisse avoir une majorité claire.
Ah bon, pour faire
et sans avoir une obstruction comme vous l'avez fait
pendant
5 ans.
Oui, bien sûr, parce que la démocratie, c'est l'obstruction.
Allez, on va parler football. Il y a déjà du débat dans l'air. On va parler football avant cela. L'équipe de France qui termine sa saison de la pire des façons, défaite face à la Croatie hier soir, 1-0. C'est la première fois de l'histoire que les Bleus s'inclinent contre les Croates. Et cela fait surtout 4 matchs sans victoire pour les Français. Cyril de la Morinerie, vous êtes là?
Oui.
Bon.
Ah, je suis là. Vous pouvez débattre aussi de l'équipe de France, si vous voulez.
On pourra débattre de l'équipe de France. Dites donc, Cyril, cette méforme ne rassure pas à 5 mois de la Coupe du Monde au Qatar. Hein.
Oui, les supporters sont inquiets. Hier soir, on a entendu des sifflets, des bleus qui sont rentrés immédiatement tête basse au vestiaire. C'est un rassemblement à oublier, pas de résultat, aucun choix payant, pas d'identité, une défense fragile, un Griezmann perdu, seuls Benzema et Mbappé ont surnagé. Les fans que j'ai rencontrés restent sur leur faim.
Ah, beaucoup de déception. Après, j'ai pas trouvé qu'on était bon. Je suis inquiet parce que devant, j'ai regardé le Danemark à gagner. Pour le mondial, vous pensez que ça va être compliqué? Non, ce sera une autre compétition. Je pense qu'on va se remobiliser.
Vu que c'était le 60e match de la saison, pour certains joueurs c'était vraiment compliqué. Trop fatigué, peut-être manque de rythme, manque technique, manque de beaucoup de choses.
J'espère que les vacances vont nous faire du bien.
La plage, le soleil, les Antilles, ça sera bien pour eux.
Voilà, les vacances pour Didier Deschamps et ses hommes. Et c'est vrai que c'est la troisième fois depuis sa prise de fonction, la prise de fonction du sélectionneur, que l'équipe de France donc, enchaîne quatre matchs sans succès. Didier Deschamps a reconnu qu'il n'avait pas réussi à insuffler à ses hommes l'énergie nécessaire pour s'imposer. Mais à 5 mois et demi du Mondial, le patron des Bleus ne tire pas de conclusion hâtive.
Je ne suis pas inquiet, je ne suis jamais d'une nature inquiète. Il y aura besoin de beaucoup, beaucoup plus de choses si on veut maintenir le standing qui est le nôtre.
Les Bleus reviendront en septembre pour deux matchs face à l'Autriche et au Danemark. Pour la Ligue des Nations, le titre s'est envolé. Mais ces matchs serviront donc de rencontres de préparation avant donc la Coupe du Monde et donc de retrouver l'Australie le 22 novembre prochain au Qatar pour le premier match de l'équipe de France dans la grande compétition.
Merci beaucoup Cyril de la Morinerie. La météo à présent avec vous Anissa Haddadi avec le thermomètre qui grimpe encore. Hein.
Et ce n'est pas fini. Les journées les plus chaudes de la semaine seront donc pour vendredi et samedi. Mais cet après-midi déjà, le thermomètre s'affole dans le sud. 37 pour Albi, 36 à Nîmes et à Bordeaux, 34 pour Manosque, 33 au Puy-en-Velay, 32 degrés à Montluçon, 31 à Marseille et Clermont-Ferrand, 29 pour Rennes et Besançon, 28 à Nice, 27 degrés à Paris, même dans le nord, ça augmente, 26 pour Rouen, 24 à Lille et on respire bien encore à Dieppe avec 21 degrés. Dans le ciel, pas grand-chose à vous signaler à part ce soleil radieux. Qui rayonne sur quasiment toutes les régions. Et puis toujours ce voile nuageux dans le sud-ouest qui, au fil des heures, va apporter des nuages de plus en plus épais sur les Pyrénées et le sud des Alpes. Nuages qui pourront vous donner des orages localement violents dans la soirée.
Anissa Haddadi, merci Anissa. 12h18, restez bien avec nous. Le débat dans un instant avec Bastien Lachaud, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, et Xavier Iacovelli, sénateur LREM des Hauts-de-Seine. A tout de suite.
Europe Midi.
Romain Desarbres.
Midi 21, merci d'être avec nous. Les législatives, on élit les députés pour 5 ans. Alors il ne faut pas se tromper, hein. Faut-il donner la majorité absolue à Emmanuel Macron? On en parle avec vous. Et avec Bastien Lachaud, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Et avec Xavier Iacovelli, sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine. Ça va être compliqué à l'Assemblée nationale. Vous n'êtes même pas d'accord tous les deux sur les résultats du premier tour. Ça va être Jean-Luc Mélenchon parle de bidouillage, Bastien Lachaud. Les chiffres ont été bidouillés.
Oui, c'est un fait. Déjà, le ministre Darmanin avait souhaité ne pas reconnaître la nuance politique NUP et comptabiliser les partis indépendamment les uns des autres, alors que c'est une alliance avec une stratégie, avec un programme commun, avec un candidat commun pour être Premier ministre. Le Conseil d'État a condamné le ministère.
Bon, ça, c'était avant, avant l'élection.
Mais c'est un fait. Le ministère a essayé de bidouiller, le Conseil d'État l'a condamné. Dont acte. Et le ministre Darmanin continue. Nous avons repéré 3 candidats NUP qui n'ont pas été comptabilisés comme NUP, mais comme divers gauche. Et donc, dans les chiffres qu'il a publiés, le ministère dit que l'ensemble est de 20 000 voix devant la NUP. Rien que ces 3 candidats, c'est 40 000 voix. Donc, nous sommes devant. Et pire que tout, le ministère n'a pas intégré les candidats ultramarins des territoires d'outre-mer qui étaient soutenus par les partis membres de la NUP. Si on rajoute tout cela, nous sommes à plus de 6 100 000 voix, soit plus de 26,5% des voix, soit plus d'un point devant le parti du gouvernement. Donc, nous sommes la première force politique du pays, c'est un fait, cela ne sert à rien de débattre longuement sur ces chiffres. Les chiffres sont là, ils ont parlé.
Xavier Iacovelli, c'est un fait acquis, NUP est devant, vous allez bidouiller, qu'est-ce qui s'est passé?
En ce moment, j'ai l'impression que tout le monde est atteint de mélanchonite aiguë. Vous savez, cette maladie qui fait que plus on dit un mensonge, plus on l'assume avec conviction et plus on arrive à convaincre les gens. Mais en fait, la réalité, c'est qu'un mensonge reste toujours un mensonge.
C'est vrai pour Gérald Darmanin.
En l'occurrence, il n'est pas question, effectivement, qu'on puisse prendre en compte et ça, c'est le ministère de l'Intérieur qui le dit, mais ne pas prendre en compte, s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu, ne pas prendre en compte des gens qui ne se sont pas revendiqués de l'étiquette NUP. Donc, sincèrement, moi, ce que je vois...
Vous mentez ?
Ce que je vois, c'est que les résultats, on est aujourd'hui la première force politique qui envoie le nombre de candidats au deuxième tour. On a 421 candidats au deuxième tour pour cette élection contre 380...
406.
A priori. Mais d'accord, 406, 421, donc on est quand même la première force. Bon, voilà. Oui. Est-ce que c'est ça qui va changer le résultat du second tour ?
Et sincèrement, est-ce que la réalité, mais c'est que vous êtes un peu. En fait, en réalité, vous êtes au coude à coude et que les deux, les deux forces sont à égalité.
Personne ne remet en question le score, qui est un score plus qu'honorable et très bon, de la NUP. Mais personne ne nie cela. Sauf qu'aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui. Alors, on pourra juger du résultat définitif au soir du second tour.
Ceci dit, ce qui va compter,
c'est pas le nombre de voix,
c'est le nombre de députés dimanche.
Très bien. Donc, vous reconnaissez notre score très honorable. Vous allez reconnaître.
C'est un fait, non ?
Bien. Vous allez également reconnaître qu'avec 25% des voix pour le parti présidentiel, c'est le score le plus faible jamais réalisé par un président élu. C'est la première fois qu'un président réalise un score plus faible aux législatives qu'il n'a réalisé aux présidentielles. Et c'est la première fois qu'un président obtient moins de 30% des voix aux législatives. C'est un fait ? Vous êtes d'accord ?
Monsieur Lachaud, il ne vous aura pas... Il ne vous aura pas échappé, que c'est aussi la première fois qu'on a un président qui est réélu. Depuis 40 ans. Depuis 40 ans, c'est la première fois qu'on a un président en exercice, hors cohabitation, qui est réélu. Et bien sûr. Bah si, ça fait 40 ans, monsieur.
Ah bon ?
Bah oui.
François Mitterrand ?
Ah bah il était en cohabitation.
Sans cohabitation.
Eh oui, sans cohabitation, c'est la première fois depuis 40 ans. Donc, ce qui est inédit, effectivement, pour la présidentielle, et c'était historique d'avoir un président réélu.
Nous avons donc un président. Nous avons donc un président.
Laissez-moi juste finir, je ne vous ai pas interrompu.
Si.
Et donc, en l'occurrence, c'est aussi historique, et donc, on n'est pas sur un effet positif, effectivement, après la présidentielle.
On est sur un rejet, et aujourd'hui, nous avons un président qui n'a pas de légitimité pour
aller. Mais vous savez, monsieur Lachaud, les Français ont rejeté Jean-Luc Mélenchon aux élections présidentielles. Il est arrivé troisième. Alors, je sais qu'avec vous, on refait toujours le match. Et en fait, les élections législatives sont le match refait des élections présidentielles. Peut-être qu'au niveau des élections municipales, on refera le match législatif. La réalité, c'est que vous avez perdu les élections présidentielles.
Allez, on va
vous êtes arrivé troisième. Donc aujourd'hui, vous avez perdu le premier tour également. Puisque aujourd'hui, y compris dans les projections, aujourd'hui, vous êtes en incapacité de diriger l'Assemblée nationale. Nous sommes le seul parti à être en capacité d'être majoritaire lors du prochain.
Ça, c'est un mensonge. Je réponds juste à ce mensonge et après, on laisse la parole à l'auditeur. Juste, je réponds. Vous mentez. Nous sommes présents dans 406 circonscriptions au second tour. Donc, nous pouvons être majoritaires. Premier élément. Donc, nous sommes la seule force avec vous à être présents dans plus de 50% des circonscriptions. C'est vrai.
Vous parlez aussi de celles où vous êtes en triangulaire, où vous arrivez troisième.
Et dernière chose.
Renan, qui nous appelle de Nantes. Vous avez 49 ans, Renan. Je suis désolé. Je vous raconte la vérité telle qu'elle est. J'ai du mal à maîtriser Xavier Iacovelli et Bastien Lachaud. Mais là, ça y est, il est midi 27. Vous êtes avec nous. Je suis désolé, je ne peux pas vous donner la parole. Je vais vous donner la parole juste après la publicité parce que, voilà, on a pris tout le temps. Donc, il y a une petite pub, un flash et on vous écoute juste après. On va commencer par vous, Renan. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est 12h30, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans Europe Midi. Le débat continue dans un instant, mais tout de suite, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité, avec vous, Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Bonjour Romain, c'est l'été avant l'heure. Une vague de chaleur arrive en France avec des pics à 40 degrés localement. Hier déjà, des records ont été enregistrés, notamment dans le Var avec 37,6 degrés. Le gouvernement appelle les préfets à la mobilisation, les chefs d'établissements scolaires aussi. Les épreuves du bac professionnel ont débuté aujourd'hui, celles du bac général et technologique. Demain, le gouvernement qui va lancer un programme de renaturation des villes pour favoriser le développement d'îlots de fraîcheur, assure la porte-parole du gouvernement. À 5 jours des législatives, Bruno Le Maire appelle les électeurs à donner une majorité claire à Ensemble pour éviter que l'Assemblée, je cite, ne devienne une guerre des tranchées. Jean-Luc Mélenchon espère lui mobiliser les abstentionnistes, notamment les jeunes, pour l'emporter dimanche. Emmanuel Macron se rend en Roumanie aujourd'hui. Le chef de l'État va saluer les 500 soldat français déployé sur une base de l'OTAN depuis la guerre en Ukraine. Il se rendra ensuite en Moldavie. Le propriétaire du site pornographique Jackie et Michel, placé en garde à vue, il a été interpellé avec 4 autres personnes. Une enquête a été ouverte en juillet 2020 pour viol et proxénétisme. L'appel de l'établissement français du sang, il manque 30 000 poches dans les réserves pour donner. Vous devez avoir entre 18 et 70 ans et peser plus de 50 kilos. Et puis le squelette de l'orque retrouvée morte dans la Seine va entrer dans les collections scientifiques du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Le premier squelette complet de cette espèce protégée.
Merci beaucoup Émilie, on vous retrouve dans une demi-heure. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Le débat de l'entre-deux-tours, la campagne de l'entre-deux-tours des législatives, on en parle. Est-ce qu'il faut donner ou pas la majorité absolue à Emmanuel Macron? C'est la question qui se pose. On est en direct avec Ronan. Voilà, je n'ai pas pu vous donner la parole juste avant le flash. Voici ces choses faites. Bonjour Ronan.
Bonjour. Merci
beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Vous appelez de Nantes. Qu'est-ce que vous dites, vous? Il faut ou pas donner la majorité absolue au président de la République à l'Assemblée?
Bon, déjà brièvement, vu ce que je viens d'entendre, je trouve, messieurs les élus, que vous n'avez un peu pas honte quand même. Parce que, est-ce que vous pensez que vraiment le débat, ce qui intéresse les Français, c'est de savoir si vous avez plus deux, moins deux personnes en avance par rapport à d'autres? Je ne crois pas. Il y a d'autres sujets beaucoup plus importants qui intéressent les Français pour ce second tour et pour l'avenir du pays. Donc je trouve que vous écharpez sur des chiffres comme ça, c'est ridicule.
Ils vont vous répondre.
Donc ça, je voulais le dire. Ensuite, une petite remarque pour la NUP. Quand on regarde les chiffres exactement, le volume global a même diminué à cause de l'abstention en nombre de voix pour l'ensemble des blocs de gauche. Et en fait, il faudrait mieux voir plutôt que la première force aujourd'hui en France, c'est l'abstention. Et ça, c'est plus important, je pense, à avoir en tête.
On va en parler, oui.
Je vais donc répondre à la question. Je pense que ce qui est important, c'est que les Français soient cohérents avec leur vote. Ils ont élu un président, Emmanuel Macron. Certains l'ont élu, on va dire, à contre-cœur parce qu'il fallait faire barrage aux extrêmes. Mais il faut être cohérent maintenant. Il faut donner à ce président les moyens d'agir, d'avancer. Sinon, on va arriver vers un blocage du pays à cause d'une cohabitation. On l'a déjà vu du temps de M. Mitterrand, justement. Le pays n'avançait pas, on va s'enliser, on va arriver en fait une gestion du pays, mais pas une projection du pays dans l'avenir, avec de nouveaux projets, avec des engagements. Et ce serait vraiment dommageable pour notre pays. Donc ensuite, le second tour, c'est un choix final, on va dire, entre deux candidats. Les Français ont écrémé au premier tour, ont choisi pour le deuxième tour. On entend les mécontentements de certains, mais ça ne représente pas non plus la majorité des Français. Il y a aussi ceux qu'on appelle les silencieux, qui votent aussi, et qui ont l'envie de donner au président les moyens d'agir pour l'avenir, de continuer à travailler contre le chômage a bien baissé, de parler de projet. Et moi, j'aimerais bien aujourd'hui qu'entre deux tours, on parle de projet et pas « moi, j'ai quelques pourcents de plus que vous, je suis première force », etc. Ça n'intéresse pas les Français et c'est pour ça qu'ils s'abstiennent.
Majorité absolue à l'Assemblée nationale pour Emmanuel Macron, vous dites oui, Ronan. Il y a Bastien Lachaud qui veut vous répondre, notamment sur les comptes d'apothicaire, pour savoir qui est devant l'autre.
Oui, parce que ça donne l'impression d'être des comptes d'apothicaire, mais ce n'est pas le cas. Si les Français ne peuvent pas avoir confiance dans les résultats des élections, c'est notre démocratie même qui est sapée. Et ce n'est pas moi qui le dis, le journal Le Monde fait les mêmes décomptes que nous et dit que nous sommes première force. Et ce n'est pas rien d'être première force ou pas, parce que cela crée une dynamique. Parce que cela crée une dynamique pour le second tour. Ce n'est pas rien, c'est la confiance dans nos institutions qui est touchée. Et l'abstention est aussi une conséquence du fait que les gens n'ont pas confiance dans leurs institutions. Donc nous devons avoir confiance dans le ministère de l'Intérieur. Nous devons pouvoir avoir confiance dans le ministère de l'Intérieur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et le journal Le Monde, qui est connu pour son sérieux, le dit aussi. Donc ça, c'est sur le premier point. Sur la question du débat, mais nous souhaitons débattre. Nous voulons débattre du fond. Nous avons mis sur la table un programme avec 650 mesures. 650 mesures pour gouverner le pays. Le SMIC à 1 500 €, la retraite à 60 ans, la retraite minimum à 1 100 €, 1 500 € pour une carrière complète, etc., etc. Face à cela, nous avons un refus du gouvernement de débattre. Encore une fois, Jean-Luc Mélenchon a proposé à Mme Borne de débattre dans l'entre-deux-tours pour que les Français puissent choisir sur un programme. Madame Borne a refusé le débat, comme elle le fait depuis le début de l'élection présidentielle. C'est-à-dire que nous avons l'impression d'être un peu seuls à faire des propositions. Et en face, nous avons le programme caché de M. Macron.
Ce qui n'est pas caché, c'est la retraite à 65 ans, c'est le travail forcé pour les bénéficiaires du RSA. Mais ce qui est caché, c'est comment va-t-il faire
le travail forcé.
Attendez, une personne qui ne travaillerait, qui refuserait.
Ça, c'est chez vos amis Poutine et Enco.
Mais oui, bien sûr. Allez, voilà les arguments, voilà le niveau des arguments quand on parle de fond.
Ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre.
Oui, très bien. Et répondez-moi surtout sur comment vous allez faire pour économiser 80 milliards d'euros par an de budget de l'État. Mmh. 80 milliards d'euros. Dites-moi comment vous allez faire.
Répondez déjà à Renan, puisqu'a priori, oui, vous étiez en train de lui parler. Moi, je vais vous répondre après.
J'ai répondu sur tous les points.
Votre programme. Renan, le programme économique de la NUPES, qu'est-ce que vous en pensez? Si j'ai bien compris, ce n'est pas votre tasse de thé.
J'ai écouté aussi M. Hollande. C'est un programme complètement irréaliste, irréalisable d'un point de vue financier et économique. Mmh. Ce n'est que ça mettrait la France à genoux et à plat. On a déjà suffisamment de problèmes financiers pour l'enliser encore plus. Et par rapport à l'Europe et par rapport au monde entier. Donc si on veut devenir effectivement le Venezuela, et puis pas un modèle visiblement pour M. Mélenchon, ben non, je suis désolé, c'est pas mon choix.
Nous sommes
dans la caricature, une fois de plus, mais ce n'est pas grave, je vais quand même y répondre. Cela fait 20 ans que les mêmes politiques sont menées. Regardez l'état du pays. Toujours plus de pauvreté, toujours plus de précarité. Une France qui est déclassée au niveau du monde. Moi, je n'ai pas envie de continuer pendant 50 plus.
Xavier Covelli, répondez à Bastien Lachaud.
Je vais déjà répondre à Renan, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler aux Français et pas forcément à la NUP. Effectivement, vous avez raison sur l'aspect compte d'apothicaire, sur savoir qui est-ce qui est arrivé en tête ou pas en nombre de voix. Parce que,
C'est moi qui ai utilisé cette expression, parce que c'est l'impression que ça donnait.
Vous avez raison.
Sauf qui est devant, qui est derrière.
L'élection législative.
Vous êtes arrivés à peu près à égalité tous les deux, voilà. En gros. Dizaines de milliers de
L'élection législative, c'est 577 élections différentes. Mmh. Et d'ailleurs, on le voit bien, le second tour n'aura pas les mêmes candidats, les mêmes sensibilités au second tour. Parfois, on aura des triangulaires. Parfois, ça sera Rassemblement National contre la NUP. Parfois, la majorité des cas, ça sera la majorité présidentielle face à un autre parti. Donc, on voit bien que c'est 577 campagnes différentes avec des candidats différents, des sensibilités différentes et un programme qui est un programme national. Ensuite, la question est de savoir effectivement si nous avons, au soir du second tour, une Assemblée nationale qui est en capacité de travailler tout de suite, en capacité de voter les réformes. Je pense notamment à la revalorisation de la retraite. C'est 4% qu'on va revaloriser tout de suite dès le mois de juillet. C'est le bouclier tarifaire sur l'énergie, sur l'essence, sur le gaz qui nous permettra de soutenir le pouvoir d'achat des Français. C'est la revalorisation de l'indice du point de la fonction publique pour les agents de la fonction publique. Tout ça, ce sont des mesures qui sont attendues par les Français et que nous avons besoin de faire rapidement dès le mois de juillet. Et donc, c'est pour ça que, encore une fois, nous avons besoin d'une majorité claire, une majorité absolue, et nous éviter d'avoir un blocage de l'Assemblée nationale, parce que ce qui est sûr, c'est que la France insoumise ne pourra pas être majoritaire.
Pourquoi ?
Et donc, la question...
Pourquoi ?
Écoutez, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui fait les projections. En l'occurrence, toutes les projections par rapport...
Aujourd'hui, aucune projection ne vous donne majoritaire.
Vous pouvez contester ça aussi, puisque vous contestez tout depuis 5 ans.
Évidemment, on le verra dimanche soir.
Juste verrez dimanche soir. Aujourd'hui, la majorité présidentielle est la seule en capacité d'être majoritaire, soit absolue, soit relative.
La méthode Coué, ça ne fonctionne pas. Prenons les projections lors des dernières élections législatives. Les projections prédisaient entre 450 et 480 députés pour LREM. Mmh. Ils en ont eu 350.
Non, mais après que les projections puissent se tromper, bien sûr. Mais aujourd'hui, elles ne vous donnent pas gagnant avec une majorité.
Elles se sont trompées il y a 5 ans. Si on parle de fonds, si on parle de projets, c'est ce qui intéresse.
Ouais. Merci, venez-y. Donc, comment allez-vous économiser 80 milliards tous les ans?
Moi, ce que je vois, il y a déjà 50 milliards sur la modernisation de notre économie et de l'État. D'accord, il y a 15 milliards sur l'aspect des retraites, effectivement, pour allonger la durée du temps de travail.
Donc vous allez financer 80 milliards du budget de l'État en passant la retraite à 65 ans.
Monsieur Lachaud,
sauf que c'est pas le même budget. Mais les retraites
et l'État. Peut-être que vous pouvez être aussi ne pas mentir aux Français et expliquer que votre programme, il va être financé par 35 impôts et 30 taxes supplémentaires. Dites-le aux Français. Dites que vous allez augmenter les impôts, nous avons pendant 5 ans diminué de 52 milliards les impôts les entreprises et sur les particuliers, et que nous avons décidé de continuer la baisse des impôts et des cotisations pour permettre aux Français de gagner du pouvoir d'achat.
Très bien, donc je vais vous répondre très simplement. Notre programme fiscal a été chiffré par de nombreux...
C'est des impôts en plus. Il est chiffré.
285 milliards supplémentaires.
Chaque Français, pris individuellement, je ne parle pas par ménage, je dis chaque Français, qui gagne jusqu'à 4000 euros par mois, vous m'entendez, chaque Français qui gagne jusqu'à 4000 euros par mois verra ses impôts baisser avec notre programme.
Et au-delà, verra ses impôts augmenter. Ivan est avec nous, il est enseignant, il nous appelle de Sainte-Geneviève-des-Bois. Bonjour Ivan, merci d'être avec nous.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Merci oui, beaucoup. Voilà, ils sont très difficiles aujourd'hui, mais là, il y avait une fenêtre de tir pour vous parler.
Je vous remercie de me donner la parole.
Je pense que
Macron ne doit surtout pas avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Hein. C'est une politique qui est dangereuse pour la France et pour les Français. Et moi, ça me fait peur pour mon pays. Ce matin, j'ai fait le plein de ma C2 et j'ai eu l'impression de me faire braquer 73 euros. Vous rendez compte, 73 euros pour une petite voiture? Mais jusqu'où ça va aller? Et les courses, c'est pareil. Je paye de plus en plus et j'ai de moins en moins dans mon caddie. Alors, désolé de m'emporter, hein, mais je suis en colère. Alors, même si je ne le fais pas d'été de cœur, bah, je voterai pour la NUPES au deuxième tour. Parce que je n'ai pas le choix pour bloquer Macron. Il n'y a plus de remplaçants dans les écoles, il n'y a plus de bilans dans les hôpitaux, les salaires ne suffisent plus. Et bientôt, ça deviendra plus cher d'aller travailler que de rester à la maison. Et tout ça, c'est Macron qui a laissé faire. Alors, les Français en ont marre de se faire insulter, les Français en ont marre de se faire marcher dessus et de payer toujours tous pour toujours plus cher. Donc voilà, pour cette raison-là, je voterai la NUPES.
Quand vous dites pas de gaieté de cœur, pourquoi? C'est parce que c'est la gauche radicale, l'extrême gauche, disent certains, et c'est pas votre famille politique?
Oui, pas du tout. Moi, j'ai pas voté pour eux au deuxième tour, mais je pense qu'au moins Jean-Luc Mélenchon a une stature d'homme d'État, et je pense qu'il aura la capacité de bloquer la politique macroniste à l'Assemblée nationale.
Bloquer ou faire la politique? Parce qu'il faut savoir, est-ce que l'ambition c'est d'être dans l'opposition et de diriger l'opposition? Je vous rappelle qu'il ne pourra pas diriger l'opposition puisqu'il n'est lui-même pas candidat, donc il ne pourra pas être député et donc il ne pourra pas l'idée l'opposition. Et alors après, si c'est pour mener la politique effectivement qu'il ambitionne, c'est-à-dire insulter la police, sortir de l'Europe, sortir de l'OTAN, désarmer la police, c'est supprimer la BAC dans les quartiers. Aujourd'hui, c'est le programme effectivement défendu par la France Insoumise et sur lesquels les autres partis de la NUP
sont des messages politiques envoyés par Jean-Luc Mélenchon.
La police tue, effectivement, ça c'est des propos de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Quand Madame Obono dit nique la France, effectivement, ce sont des propos d'une députée de la République française.
Écoutez-moi, donc oui. Je comprends la colère de cet auditeur sur les politiques qui ont été menées depuis 5 ans.
C'est normal, c'est pas la vôtre, donc vous comprenez.
Votre
politique. Donc, tout à fait. Quand on est dans l'opposition, votre sens.
Mais
donc,
je comprends. Là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut un programme et un gouvernement qui rompent avec ces politiques qui, depuis 20 ans, étouffent le pays, maltraitent les travailleurs, maltraitent les Françaises et les Français. Oui, notre système de santé est en train de s'effondrer. On va avoir une catastrophe climatique là qui arrive, un phénomène climatique extrême qui arrive dans les jours qui viennent avec une canicule. Nos services d'urgence ne sont pas prêts à faire face. Aujourd'hui, l'éducation nationale est dans un état déplorable. Il n'y a plus de remplaçants.
Vous avez voté contre le Ségur.
C'est terrible. À la pompe, c'est terrible. Il faut bloquer le prix de l'essence. Il faut le ramener à 1,40€. C'est ça que nous proposons. Ce que nous proposons, c'est augmenter les salaires tout de suite pour soulager la vie des Français et pour financer les services publics. L'argent magique, c'est vous qui le faites avec 80 milliards d'euros de diminution. C'est vous le faites.
Vous détruisez les impôts supplémentaires sur les Français.
Non, c'est faux.
Allez,
vous mentez.
65 taxes et impôts.
Oui, ok. Qui touche les puristes exclusivement. Chaque Français qui touchera 4000 euros de revenus verra ses impôts diminuer.
Voilà, vous avez déjà dit ça. 12h45, 1h moins le quart. On se retrouve dans quelques instants, quelques secondes de pub, quelques minutes de pub. Et on se retrouve juste après. À tout de suite.
Europe Midi.
Romain Desarbres.
12h49. Merci d'être avec nous dans Europe Midi. Bon appétit si vous êtes à table. On va parler à présent de l'abstention. Abstention record. À chaque élection, j'ai l'impression qu'on en parle. Il va falloir faire quelque chose. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote dimanche dernier. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Français aillent voter? Je ne dis pas pour qu'ils s'intéressent à la politique, parce qu'ils s'intéressent à la politique. Tout le monde parle de politique, mais pour qu'ils aillent voter. On est avec vous au 39-21, on est également avec Xavier Iacovelli, qui est sénateur de La République En Marche des Hauts-de-Seine, délégué général de Territoire de Progrès, et avec Bastien Lachaud, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. 70% des 18-34 ans, c'est un sondage IFOP, c'est un sondage. Bon, c'est peut-être 65, c'est peut-être 72, mais en gros, près des trois quarts des 18-34 ans ne sont pas allés voter. Il y a un énorme problème. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à leur parler? Je vous pose la question à tous les deux. Vous êtes vraiment dans le même sac et quelle que soit la couleur politique, on aurait pu prendre des LR, des RN. Vous n'arrivez pas à déplacer les 18-34 ans. Xavier Iacovelli, oui, La République En Marche.
Vous avez raison, ça fait des années que ça dure et ça s'accentue de scrutin en scrutin. Mmh. Et c'est souvent, d'ailleurs, les jeunes qui sont ceux qui votent le moins systématiquement à tous les scrutins. Et donc, effectivement, il faut revoir, à mon sens, à la fois les différents modes de scrutin, aussi la représentation dans notre assemblée. Je pense, par exemple, la dose de proportionnelle est importante. Alors, moi, je ne suis pas favorable à la dose de proportionnelle. Je suis soit sur le statu quo, soit sur la proportionnelle complète pour éviter d'avoir deux types de députés, ceux qui seront élus sur des listes et d'autres qui
seront élus en une main. Ça, c'est pour l'efficacité du
vote. Ça, c'est pour l'efficacité et la représentativité dans l'Assemblée nationale. On l'avait proposé dans la réforme constitutionnelle. Ça avait été refusé par les différentes oppositions. Moi, j'ai bon espoir qu'on puisse, dans ce quinquennat, avancer terrible. Sur cette représentation. Après, il y a la question du mode du scrutin. Nous, on avait fait des propositions, notamment...
Je vous coupe un quart de seconde pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Ce qui veut dire, si c'est une proportionnelle intégrale à un tour... au vu des résultats de dimanche
dernier, ça oblige
des
coalitions.
Ça serait 25% pour l'ANUP, 25% pour vous.
Et ça oblige des coalitions
20%
en fait,
pour le RN, 10%, 10, 11% pour le
Alors on peut,
pour
on
les
peut,
Républicains.
Juste pour vous préciser, on peut avoir comme pour les assemblées régionales par exemple une prime à la liste qui arrive en tête de 25%. C'est ce qui se passe dans les élections régionales, et donc ce qui permet d'avoir une stabilité tout en ayant une représentativité plus importante. Et après, sur les modes de scrutin, je pense qu'il y a aussi une avancée sur les 3 jours de vote, vendredi, samedi, dimanche, pour permettre à tous les Français de pouvoir se déplacer avec le rite républicain du résultat du dimanche soir, par exemple. Et le vote électronique, le vote par correspondance, c'est des éléments sur lesquels il faut qu'on débatte et qu'on se mette autour d'une table toutes les sensibilités politiques et les citoyens ensemble pour réfléchir à comment améliorer notre mode d'élection.
Je pense qu'il faut, il faut revoir complètement les institutions de la Ve République. Aujourd'hui, les Français l'ont compris, il y a une élection qui compte, c'est l'élection présidentielle, et on nous explique que toutes les autres élections ne servent à rien. D'ailleurs, les élections législatives, on nous dit que ça ne sert à rien d'aller voter, il faut conforter, il faut valider le choix des élections présidentielles. Donc pourquoi aller voter ? Donc il faut en finir avec cette monarchie présidentielle. D'ailleurs, les jeunes, on a réussi, et les quartiers populaires, on a réussi à les faire revenir lors de l'élection présidentielle. Les taux d'abstention étaient
beaucoup
plus faibles.
Ah oui, lors de la présidentielle, là,
évidemment.
Non.
Oui, évidemment, de la présidentielle. Et ce qu'il faut donc voir aujourd'hui, c'est revoir ça complètement. La proportionnelle, nous, on a déposé une proposition de loi pour faire de la proportionnelle. Vous avez voté contre La République En Marche lors du dernier mandat, donc vous l'aviez refusé. Mais ce que je note, c'est que vous êtes pour, là vous nous le dites, vous êtes pour une proportionnelle, quitte à ce qu'il n'y ait pas de majorité, qu'il y ait des coalitions. Donc là, pas besoin d'envoyer une majorité absolue de députés LREM à l'Assemblée pour ces élections législatives.
Aujourd'hui, vous avez remarqué qu'on n'est pas dans le même système pour l'instant.
Ce qu'il faut aujourd'hui...
Puisque vous avez refusé à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est expliquer aux gens que s'ils votent pour les candidats de la NUP à l'élection législative...
C'est 65 impôts supplémentaires.
Jean-Luc Mélenchon, arrêtons de mentir aussi.
Un milliard par jour, des hausses d'impôts pour tous.
Arrêtez de mentir.
Et on désarme la police.
C'est le SMIC à 1500 euros, c'est la retraite à 60 ans, c'est le blocage des prix et l'essence à 1,40 €.
On est parti de l'abstention. Sébastien...
Je conclue.
Vous concluez.
Il y a une majorité de députés NUP à l'Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon sera Premier ministre. Et ça, c'est les électeurs qui le décideront, parce que dans 406
présidents, c'est le président de la République.
Ils peuvent le faire.
Ça, c'est la Constitution.
À moins que vous voulez passer tout de suite à la 6ème République, c'est pas le cas.
Sébastien, qui nous appelle de Fontenay-le-Comte.
Pourquoi c'est parce que vous revendiquez pas la 6ème République ?
Si,
vous
avez encore changé. C'est avec des comportements comme ça que vous renforcez l'abstention.
C'est la Constitution, monsieur. Vous êtes parlementaire, vous devez respecter
la Constitution. C'est la Constitution. Les députés, c'est eux qui votent la confiance au Premier ministre.
Bien sûr.
Les députés de la NUP.
Sauf que c'est le président qui décide, qui propose.
Et donc, le président ferait le choix du blocage ? S'il y a une majorité absolue de députés de la NUP,
qui vous a dit ça ? Qui vous a dit ça ?
Eh bien, donc, s'il ne refuse pas le blocage...
En l'occurrence, généralement, on prend un parlementaire.
Pas du tout. Elisabeth Borne était parlementaire ?
Sébastien, agent de maintenance.
Jean Castex,
je demande qu'on coupe les micros.
Bien sûr que non.
On coupe les micros, c'est arrivé deux fois. À chaque fois, c'est avec vous, Xavier Iacobelli. Agent de maintenance en maison de retraite. Sébastien, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Fontenay-le-Comte. Vous avez 43 ans. Est-ce qu'il faut rendre le vote obligatoire ou pas pour régler le problème ?
Pas du tout, pas du tout. À mon sens, pas du tout. Bah, déjà pour la simple et bonne raison qu'on est en démocratie et qu'on doit pouvoir choisir ce qu'on veut faire. Et en plus, forcer des électeurs à choisir entre les deux personnes, par exemple, que vous recevez sur le plateau, sachant que c'est honnêtement inaudible, Ouais. Franchement, ça me ferait mal de voter pour un groupe comme ça. Hein. Ah bah forcément, ça c'est sûr.
Oui, bah oui. Bon, pas de vote obligatoire. Bon bah, faudra trouver une autre formule. Faudra que vous donniez un petit peu plus envie aux électeurs d'aller voter. Merci beaucoup d'être venu. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. Ronan, Ivan, Sébastien à l'instant. Ivan qui nous avait appelé de Sainte-Geneviève-des-Bois. Et là, on était à Fontenay-le-Comte. Il est 12h55. Merci à Bastien Lachaud, député La France Insoumise. Et merci à vous, Xavier Iacovelli, sénateur LREM. À très vite. Voilà, les débats sont toujours animés. On est avec vous. Avec vous, Elisabeth Assayag. Bonjour, Elisabeth.
Bonjour,
Romain. Dans un instant, c'est La France Bouge.
Eh oui, c'est La France Bouge et nous on retrouve demain pour Europe Midi.